à tous, opus du mercredi. Et oui, et oui, de l'actualité culturelle, tous azimuts. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir et surtout l'avantage de recevoir le seul, le grand, l'unique, le Marc Béhin. Bonjour Marc.
Eh bien, bonjour Marie-Laure.
Alors, cette aventure, on va tout de suite parler de cette aventure extraordinaire que tu as à l'Opéra de Paris avec Hamlet.
Ah oui, oui, bien sûr que j'ai eu, ouais. Mais oui, c'est vrai, c'est une aventure, c'est une belle aventure. Une belle surprise surtout.
Surtout, tout le monde t'a remarqué.
Ben oui, bah, faut dire que c'était pas difficile, vu comment il m'avait grimé. Oui, bah, surtout que oui, c'est un bon petit rôle de directeur d'hôpital dans cette mise en scène. Intéressant, une belle équipe, des beaux chanteurs, une production que bien appréciée du public. Bon, voilà, donc zéro faute, quoi.
Moi, j'ai absolument détesté la mise en scène.
Je sais, tu m'as dit.
Parce que Verlikovski, j'en ai ras-le-bol. Il faut toujours qu'ils nous mettent une baignoire, un bidet,
mais
à
oui,
la lavabo.
C'est tous les gens qui l'ont vu.
Voilà, c'est ça.
Mais bon, après, ça n'empêche pas que, bon,
mais
les chanteurs...
Il y a des chanteurs formidables.
Ludovic Tézier était quand même une performance artistique.
Ouais.
Il y a donné le son, je crois, à pas mal de jeunes chanteurs.
Voilà.
Je crois que tu feras des masterclass après, je me semble.
Ophélie, magnifique.
Oui, ben voilà. Lisette Porozza, ouais, enfin fidèle à elle-même, puis elle a gagné en puissance, voilà. Elle a gagné en justesse, enfin moi j'avais donc travaillé avec elle sur le Barbier de Séville.
Voilà, c'est la question que j'avais posée. Vous semblez bien que vous avez travaillé ensemble sur le Barbier.
Et c'est vrai que déjà là c'était assez extraordinaire, mais bon là bien sûr un rôle un peu taillé pour elle, j'ai envie de dire. Enfin, en plus elle avait une espèce d'Ophélie. Comme c'est une jolie femme quand même, ça fait une folie, une Ophélie.
Ophélie est une belle femme. Hein.
Voilà, et c'est marrant parce que ça donnait une dimension au personnage qui était intéressant dans l'œuvre d'Ambroise Thomas, quoi, parce qu'il est une œuvre sombre quand même, qui est pas une œuvre.
Alors, je reconnais que Ambroise Thomas, ce que j'ai vu à l'Opéra Comique avec Monsieur Dégout, était sans couder au-dessus. Mais on arrête sur Hamlet parce que aujourd'hui on est venu pour ton actualité, dis-nous tout, parce que quand même, tu vas... Je te jure qu'il va être très difficile qu'on te prenne pour un lapin vert, ou un grand lapin vert.
Oui, j'ai fait une belle rencontre, en fait, avec un lieu qui s'appelle à Joinville-le-Pont, dans le 94. C'est une péniche dirigée par deux femmes absolument extraordinaires qui font à la fois des performances théâtrales, du clown, du stand-up, et ils invitent voilà des artistes voilà émergents, on va dire, pour faire des performances artistiques. Alors moi, je suis pas tellement dans la performance, mais il se trouve que j'ai joué avec pour eux pour présenter mon Alice, le meilleur des mondes, qui a joué à Hanoï là cet été, pour avoir un peu une réaction de public. Et puis là m'a proposé et si on faisait une soirée indienne. Alors évidemment, là, prendre par mes sentiments, difficile de refuser.
C'était super futé.
Et donc, je suis vite précipité pour dire, ben, ok, mais en trio, parce que je voulais pas non plus que ça soit, et faire un raga du soir. Alors qu'est-ce que ça veut dire, raga du soir? Alors, la musique indienne, ce sont pas des mélodies, ce sont des ensembles de notes qu'on rassemble pour avoir une espèce d'atmosphère sonore qu'on appelle raga. Et il y a des ragas du matin, des ragas l'après-midi, ragas pour Shiva, des ragas, etc. Et moi, j'ai créé, composé, à partir de ragas traditionnels, comme je ne fais pas de la musique indienne, mais inspiré de la musique indienne, j'ai écrit un raga du soir qui va se jouer donc pendant 2h30 et avec donc un tablaïste, un joueur de tabla indien, Samira s'appelle, et une tempora qui donnera donc le bourdon dans cette soirée, et puis le tout avec un repas indien à la clé, bien sûr, puisqu'ils font aussi la restauration, mais la restauration très rapide, hein, c'est pas le grand restaurant indien, etc. C'est vraiment très très convivial.
Comme fait un peu Ariane Mouchkine.
Et c'est dans l'esprit un peu la péniche Anaco, je sais pas si les gens connaissent au Paris, mais c'est très très, moi j'aime beaucoup, et puis je trouve que ça manque des lieux un peu conviviaux comme ça, où les gens viennent sans prétention présenter leurs œuvres. Ça me fait très plaisir de jouer là juste avant de partir en tournée.
Dis-moi, Marc, où se trouve exactement ce lieu.
Alors ce lieu se trouve 59 quai de la Marne à Joinville-le-Pont.
Pompon.
Donc Pompon que tout le monde connaît à cause de la chanson, n'est-ce pas? Donc en face c'est GGN, pour dire, juste en face sur l'autre rive, facile d'accès puisque c'est le RER Joinville-le-Pont, on descend, on longe la Marne et on y est. Il y a un parking juste devant sur les bords de Marne qui est jamais simple de parler sur les bords de Marne, mais là il y a un parking juste devant. On est sur la route des Guinguettes, hein, donc c'est le début des Guinguettes là, puisqu'après on va aller chez GGN et après on va aller à Champigny, etc.
Et la date c'est quand?
Le 13 mai.
Ah.
Le samedi 13 mai à 20h précise.
Oui, parce qu'il faut dire que Marc, ayant des origines anglo-saxonnes, a refusé de jouer le 6 mai puisque c'est le couronnement du roi.
Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Mais ça, c'était évident.
D'ailleurs, nous sommes invités tous.
Charles déjà m'a appelé pour dire ne prends pas de date, s'il te plaît, à ce moment-là.
Voilà.
Bien sûr, Charlot, j'ai dit non.
Ouais, mais non, mais alors, moi personnellement, j'aime beaucoup Charles. Eh bien, on m'a envoyé un livre que j'ai trouvé formidable parce que j'ai appris plein de choses. C'est Inès de Kertanguy qui a écrit ce livre qui s'appelle Princesse Alice de Battenberg. Or, Alice de Battenberg était tout simplement la mère du prince Philippe, donc le père de Charles. Et dans ce livre absolument passionnant, mais vraiment passionnant, on apprend beaucoup de choses. D'abord, il faut vous dire que c'est très compliqué. Victoria, la reine Victoria, était vraiment la, j'ai envie de dire, la grand-mère du monde.
La reine mère, on l'appelait.
C'était la reine mère, bon voilà. Et donc on voit entre les mariages comment un prince d'origine danoise et allemande va pouvoir devenir le roi de Grèce. Voilà, c'est un petit peu bizarre, parce que je vous signale que Sofia, l'ancienne, la reine mère espagnole, est une princesse grecque, que comment Alice de Battenberg a passé son enfance auprès au château, elle a très bien connu la reine Victoria, elle a connu ça, et elle adorait sa mère, et c'est une vie qui va se partager entre l'Angleterre, entre l'Allemagne, entre la Hongrie. Alors, ils sont un peu ballottés avec les imbrications.
Assez... Oui, c'est une famille. Hein.
Énormément de choses, et je dois dire qu'on comprend beaucoup plus de choses sur Philippe. Parce que Philippe, il n'a pas eu une enfance facile du tout, comme Alice. Alors, Alice, qui était absolument ravissante, c'était une très belle femme. Alice, sa mère découvre très tôt qu'elle est sourde. Mais par l'opiniâtreté de sa mère, Alice va apprendre à parler, et surtout elle va parler plusieurs langues étrangères. L'anglais, l'allemand, le hongrois, le grec, le danois et plein de choses comme ça. Et on va voir que toute cette filiation va se trouver, sa sœur à un moment donné sera la reine du Danemark, une adulée.
On rejoint Hamlet.
Non. Yes. Voilà. Ben, elles ont très bien connu Hamlet qui était un. Elle va se trouver, elle tombe éperdument amoureuse d'un jeune homme qui est un prince grec, mais qui est aussi grec que nous deux, quoi, voilà, donc c'est un petit peu ça. D'ailleurs, ils disent que les Grecs sont ingouvernables, ce qui, à mon avis, n'est pas totalement faux, voilà. Et on va la voir, cette pauvre Alice, prise dans l'essor de ces alliances qui vont tomber, qui vont être reprises, et comment... par un mari qu'elle a adulé, qui est vraiment, elle va être très bouleversée parce que son époux va être emprisonné par un putsch déjà des généraux grecs. Il manque d'être exécuté. Elle va se donner à corps perdu. C'est une femme très généreuse, hein, qui s'engage pour faire à manger pour les pauvres. Elle leur tricote. Elle est vraiment pour l'empathie. Elle dit, je suis princesse, oui, mais il faut que j'aide les pauvres et tout ça. Elle va s'engager pour sauver son époux et elle vit des périodes très dures. Elle est enceinte lorsque ça arrive. Et ben, elle va prendre cher, la peau, physiquement. Et ben l'autre, ben oui, il lui doit la vie. Ben oui, mais elle la trouve beaucoup plus moins jolie que ses 18 ans. Donc il va vivre une autre vie et il va la laisser tomber. Salaud. Et la peau va être, et ça c'est aussi un bébé, elle va être abusivement enfermée dans des hôpitaux psychiatriques.
Ah oui, à l'époque, oui.
Avec des traitements inhumains. Et sa mère participera, elle ne pardonnera jamais à sa mère. Moi aussi, j'aurais pas pardonné, mais ma maman, elle n'aurait pas fait ça. Voilà. Donc, on est dans cette Europe extrêmement divisée. Elle a l'une de ses sœurs qui est grande duchesse en Russie. Et cette grande duchesse en Russie, qui est devenue une sorte de nonne laïque, elle va s'en inspirer. Parce qu'en Grèce, elle va s'habiller comme une nonne, elle va épouser la foi orthodoxe, et elle va être reconnue par... elle va faire le bien, elle va faire des sous, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est une femme extraordinaire, c'est une femme d'un courage merveilleux, dont un connard de mari... Pardon, excuse-moi, mais il m'énerve. Il m'énerve, hein, parce que lui, il a dilapidé toute une fortune avec des maîtresses sur la Riviera, tandis que la pauvre, elle crevait de solitude avec des traitements inhumains, psychiatriques. Et surtout, il l'a retirée à l'amour de ses enfants. Et là-dedans, on va comprendre beaucoup plus, un petit peu, dans le caractère de Philippe. Finalement, parce que Charles n'est pas caché que son père était très dur, très très dur. Il a beaucoup souffert. Mais je crois que Philippe a dû se faire une armature d'un courage exceptionnel. Hein. D'ailleurs, Elisabeth tombe éperdument amoureuse de ce prince qui est très beau, parce que Philippe d'Édimbourg était vraiment très très beau, faut le dire. Voilà. Donc voilà. Et on comprend beaucoup mieux finalement dans toutes ces lignées. Ça ferait naturellement un film. Ça se lit vraiment comme un roman. Donc je vous recommande vraiment Inès de Kertanguy, Princesse Alice de Battenberg. Et c'est aux Presses de la Cité. Et c'est vraiment un très très joli livre et qui nous apprend beaucoup de choses. Alors je peux vous dire qu'on se perd un petit peu. J'aurais aimé qu'il y ait un peu un arbre généalogique et des photos. C'est voilà. C'est le seul reproche que je fais à ce livre. Moi, je pense qu'il est l'heure, le moment, là, précis, d'écouter tout de suite un premier extrait. Qu'as-tu choisi ?
Alors, j'ai choisi un extrait tiré de l'album Écho lointain, que j'ai enregistré, oui. Et le premier titre s'appelle Le rêve de Thélème.
Ah oui.
Alors, Thélème, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cité imaginaire de Rabelais, oui. Dans le roman de Rabelais. Et donc, je voulais commencer cet album par un rêve, ce rêve de faire une cité idéale. Donc, vous allez entendre, je joue sur cet album de la guitare oud. Alors, c'est une guitare, mi-oud, fabriquée par luthier Romain Lyon, au tablage Henri Barbette. Et vous allez vous entendre cette atmosphère. Voilà, on est début d'un ringard. On va pas passer l'une heure et demie avec, hein, mais on a déjà pas mal de
on
minutes.
On va couper,
voilà. C'est juste pour vous donner l'ambiance un peu de ce concert qui aura lieu le 13 mai prochain.
On écoute. Thank you. ça m'a fait plaisir de réécouter Écho lointain, qui est un album que j'aime beaucoup.
Ah
voilà.
Ben, c'est gentil.
Donc, donc voilà, donc, ah c'est Écho lointain.
Oui,
parce que tu passes, non pas au lapin, Gilles, mais sur la péniche du lapin vert.
Oui.
Youpi.
Oui. Ah oui, oui.
Voilà. Tu passes le samedi.
13 mai.
À quelle heure?
20h. 20h, voilà.
Y a-t-il un téléphone pour réserver?
Non, faut aller simplement sur le site, vous tapez Péniche Lapin Vert sur Internet et vous allez avoir apparaître l'adresse email. Parce qu'en fait, ils
c'est
ont
à Joinville-le-Pont.
Ouais, ouais, ouais.
Le meilleur accueil vous sera réservé.
Oui, c'est un bel endroit à découvrir, mm-hmm. qui fonctionne d'ailleurs bien, parce que c'est toujours plein, mais c'est vrai que c'est un bel endroit à découvrir, et surtout, là, il va faire très beau, c'est sur les bords de Marne, donc il y a un côté, Jean Renoir, la belle équipe, enfin, ce côté un peu bord de Marne qu'on a dans ces quartiers-là.
Comme c'est beau au bord de l'eau.
Voilà.
Jean Gabin qui chante ça, parce que n'oublions pas que Jean Gabin a été d'abord un artiste de musical.
Oui, chanteur. Ouais,
comme son père. Oui, voilà, il a joué avec. Et comme tu parles de beau temps et de promenade, je suis allée, et je m'en vante pas, hein, c'est comme ça, je vous dis, au musée du domaine royal de Marly. Alors, c'est vrai, c'est sur la route de Saint-Germain-en-Laye. Il y a longtemps que j'étais pas venue dans ce lieu qui est vraiment très beau. Parce que s'il fait beau, c'est un endroit idéal. Parce que vous avez le musée. En plus, vous avez l'exposition permanente avec la maquette de la fameuse machine de Marly qui donnait... Les maquettes sont super bien faites avec l'aqueduc, tout ça. C'est quand même incroyable d'ingéniosité. Et puis, vous avez une très belle exposition qui s'appelle « Séduction et pouvoir, l'art de s'apprêter à la cour ». Alors, dans cette belle exposition, eh bien, on va pouvoir tous ces accessoires, on va voir non seulement, naturellement, les éventails, mais on va voir tous ces petits flacons, ces flacons de parfums, de senteurs. Moi, j'ai adoré celui qui est fait dans une coquille de noix. Donc, j'aurais dit qu'à la fin de l'exposition, je le prendrais chez moi. Ils m'ont pas dit oui, mais ils m'ont pas dit non. Donc, il y a tout un espace.
Voilà.
Il y a aussi les perruques. Pourquoi la perruque est devenue un emblème? On va vous expliquer pourquoi. On va vous montrer des modèles de perruques, des boîtes à perruques, tout le nécessaire pour entretenir la perruque. Alors, les femmes portaient tout simplement un bonnet. Et ça répond finalement à des questions qu'on ne s'était jamais pensées. Entre autres, sur la dentelle. La dentelle est venue surtout de Venise. Les femmes de pêcheurs utilisaient le fil de leurs époux pour faire des cols, des petits bonnets. Ça, je l'ai vu quand on allait se promener à Venise et qu'on faisait les îles Murano et tout ça, où elles crochetaient des petites bourses, des trucs, des cols comme ça. Et donc, c'est devenu, donc, on a carrément, hop, piqué quelques femmes, on les a, hop, mises en France pour qu'elles apprennent leur technique. Et c'est vrai, je dois avouer, je m'étais jamais posé la question, quand la dentelle apparaît dans l'habillement. Et donc, après, il y a différentes manufactures. Alençon, Chantilly, il y a la dentelle sur métier, la dentelle à l'aiguille, la dentelle sur métier. Donc, plein de choses. Et c'était, on en mettait aussi bien hommes que femmes pour parer tes poignets, des jabots, des choses comme ça. Et puis, on voit les montres à système, dont une, par exemple, va faire apparaître l'un des visages de l'un des apôtres. Une autre qui est toute mignonne, toute ronde, et la précision de l'horlogerie extraordinaire, où on doit dire qu'on a beaucoup perdu, parce que avec la révocation de l'édit de Nantes, beaucoup de gens sont passés en Suisse, oui, apportant un savoir-faire, puisque ils n'avaient pas envie de se faire trucider. Quand même, on se demande pourquoi. Et donc, il y a aussi les flacons à parfum, d'une finesse incroyable. Il y a quelques souliers, les boutons, les boucles de chaussures.
Pardon. C'est un musée privé?
Non, ou... c'est un. Non, je t'ai dit, c'est un musée royal.
Ouais.
Non, c'est un musée d'État. Et il y a des pièces extraordinaires, comme par exemple ces talons en or guilloché que tu pouvais mettre sur ton talon que tu avais. Alors, ça, il y a vraiment des pièces magnifiques. Mais je voulais vous donner envie d'y aller le plus tôt possible, parce que s'il fait beau, et on espère qu'il fasse beau, vous visitez le musée, et après, vous vous promenez dans ce parc qui est magnifique. Alors, il reste là où il y a l'exposition, un petit édit là, mais ça a été beaucoup détruit. Mais il reste quand même le parc, qui est superbe, mais vraiment magnifique. Et donc, ça se trouve, musée du Domaine Royal de Marly. Grille royale, c'est à Marly-le-Roi. Le site internet, c'est musée-domaine-marly avec un y.fr. Et on vous expliquera comment y aller. Mais allez-y avec vos enfants, parce que c'est tellement joli, tous ces petits... Puis enfin, moi, je sais qu'enfant, j'aimais beaucoup tous ces petits objets, ces trucs comme ça. Et on voit aussi les senteurs différentes, comment on amenait le maquillage. Alors, faut savoir que pour le maquillage, il y a des choses qui aujourd'hui sont complètement interdites, hein, la cireuse te brûle.
Bien sûr, bien sûr, ouais.
Et voilà. Moi, je pense qu'il faut passer un deuxième extrait immédiatement.
Ah ben, il faut. Mmh. Alors là, j'ai choisi, on a fait une émission sur musique contemporaine, tu te souviens?
Oui, absolument.
Voilà. Et donc, ça m'a amusé parce que j'ai produit deux CD à l'époque d'un groupe, un collectif qui s'appelle Ruka.
Oui.
Et ce premier CD qui s'appelle Soleil triste garde tempéré, c'est le mélange de viol de gambe qui sera joué par Martin Boer et des instruments électriques, donc dont moi, Shlomé Benaroche, Olivier Wessner, où on va mélanger. On parlait du bruitisme avec Pierre-Henri l'autre fois. Ben on est dans cette histoire-là, en tout cas, alors c'est pas du bruit, au reste, on est revenu à une espèce de mélodie, mais on est quand même dans un système de recherche, et c'est ce collectif de musique contemporaine, qui s'appelle Ruka, encore une fois, qui est disponible là aussi sur le net, hein, n'hésitez pas à y aller, a fait vraiment progresser, toute une mouvance de l'époque, ça date de 2010, tout un mouvement de l'époque des groupes de musique contemporaine, et ça a eu beaucoup de succès, cette époque-là, bizarrement.
Là, tu étais venu présenter l'album, et on avait énormément rigolé parce que tu étais venu avec deux autres musiciens et on avait beaucoup ri.
Voilà, c'est Ruka. Oui, parce que moi je fais la musique avec des gens qui rigolent, hein, voilà. Même si c'est de la musique qui peut être sérieuse, mais sans se prendre au sérieux, comme on dit. Mais voilà, donc je voulais passer ces extraits-là de ce groupe parce que je trouve que ça fait suite un peu à cette émission et voir que les pères spirituels qu'on a eus nous servent encore aujourd'hui.
Oui, voilà. On écoute Ruka. est-ce qu'il y a un site spécifique où on peut retrouver tes œuvres?
Oui, sur Bandcamp. En fait, markb1.bandcamp, BANDCAMP.com. Si vous avez toute ma discographie, Marc Bien, voilà, c'est un site, c'est Bandcamp, je crois que les auditeurs connaissent. C'est voilà, vous êtes mon nom, hein, markb1.bandcamp.com, et vous allez retrouver toutes mes œuvres qui sont là maintenant sur en téléchargement. On peut retrouver. Il y a aussi le traditionnel Fnac, bien sûr, ouais. La Procure, qui a encore quelques CD, ouais. Chez Bayard, parce que bien sûr, ça fait partie des anciennes, ouais. Chez ADF Productions aussi, des anciens distributeurs. Ça, c'était avant Internet, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, le développement.
Before Internet.
Voilà, mais j'ai vu que c'était encore disponible dans certains endroits, ou en tout cas, si c'est pas disponible, eux, ils ont des pouvoirs de téléchargement, d'envoyer, voilà. Sur des sites de téléchargement. Et puis, vous pouvez aussi taper mon nom, voilà, et puis vous allez avoir maintenant sur le net, tout y est, ou sur mon site, hein, marc-b1.com, vous allez pouvoir aussi voir les dates de jeu où je joue, et aussi des extraits vidéo des œuvres quoi que je joue, voilà.
Puis ce qu'il faut dire aussi, j'ai entendu cela, c'est que le vinyle faisait une montée en puissance incroyable.
Oui, un retour sur le vinyle. Alors le problème du vinyle, c'est que ça coûte très cher à fabriquer. Donc faut vraiment avoir beaucoup de vues et de notoriété.
Ils ciblent beaucoup, hein, les artistes.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un renouveau chez les plus jeunes, mais je crois que ouais. Il y a l'essoufflement d'avoir un fichier d'un titre sans savoir qui chante, qui je crois que les gens ont besoin d'avoir un peu d'histoire sur l'artiste en fait.
Qu'est-ce qui se passe sur Spotify? L'objet.
Ouais. Et puis ce qui se passe sur Spotify, voilà. ou les sites en fait où on peut télécharger, qu'il n'y a pas d'histoire d'artiste. Alors un artiste a une histoire, il ne fait pas qu'un titre, sauf ceux qui font du gros show de show business, ils font que du marketing, mais ouais. Ça n'a rien à voir. Mais un vrai artiste a une discographie et ses premiers albums sont aussi importants que les derniers, et il y a une progression dans ça. Mais ils veulent savoir un peu l'histoire et puis avoir la matière aussi touchée. Ouais. Le vinyle a amené ça. On a les paroles, ouais. on a les musiciens, où c'était enregistré, non, comment c'était enregistré,
quoi,
les pochettes.
T'écoutais, tu mettais ton voilà. Disque sur la platine, tu regardais la pochette et tout.
Mais il y avait un rituel voilà. D'écoute. On n'écoutait voilà, pas quand sa voiture ouais, comme ouais. Ça entre.
En tout cas, moi, je suis rudement contente d'avoir gardé tous mes vinyles.
Ouais, moi aussi.
Et vous verrez qu'il y aura le retour de la cassette vidéo aussi.
Ouais.
Parce qu'elle a toujours d'utilité. Et moi, je sais que j'ai des cassettes vidéo que j'ai enregistrées il y a. Qui sont impeccables comme qualité.
Oui, bien sûr.
Voilà, ouais. C'est ça. Donc, on s'est beaucoup moqué de moi quand j'ai gardé mes cassettes. N'empêche, on me dit, mais tu trouveras tout sur Internet. Mon œil.
Mais c'est vrai que ces albums comme Ruka, on aurait ouais. Intérêt à le passer en vinyle, ouais. Parce qu'on aurait le son qui est quand même différent, parce que le problème voilà. Du MP3, c'est même là, ça va passer en MP3 sur les fichiers, ouais. Et on perd en gravité. On a fait tout un travail sur le son avec le Ruka, ah, et parce que le son est aussi important que la musique dans ces enregistrements-là, et on perd beaucoup en qualité sonore. Ouais. Et ça vaudrait le coup d'investir, voilà. Mais ça, je sais que je m'étais renseigné, ça coûte très très cher parce qu'il faut passer du numérique à l'analogique, parce qu'on peut pas enregistrer en analogique comme à l'époque, parce qu'il n'y a plus de machine pour ça. Donc, on est obligé de faire des transferts. Et ça coûte un peu cher. Il faut les studios. Et le seul studio à l'époque, je ne sais pas encore maintenant, mais qui faisait ça, c'était à Londres, déjà. Donc, en France, il n'y avait pas. Peut-être qu'en France, maintenant, il y en a. Je ne suis pas au courant, mais je ne suis même pas sûr.
Alors, par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en France, on a toujours une usine qui font les disques vinyles.
Oui, ils fabriquent, mais ils n'enregistrent pas.
Ils fabriquent.
Oui,
ils n'enregistrent pas.
Ouais, ouais. C'est en Bretagne, je crois. Oui, il me semble.
Donc, pour les historiens de la télévision, je vous signale qu'il y a un inspecteur Bourrel, les 5 dernières minutes, qui se parle dans une usine de vinyles. Ouais. Où il y a un petit jeune comédien qui est Claude Berry. Donc c'est assez, c'est extrêmement savoureux de regarder. Mais là, je vais vous parler d'un film qui est on ne peut plus contemporain. Et ce film contemporain a été passé à, j'en ai parlé rapidement il y a quelques temps. Il est passé à la quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2022. Ça s'appelle La dérive des continents au sud, entre parenthèses. Alors, c'est un film de Lionel Bayer. Qui est suisse, mais on lui en veut pas. D'ailleurs, dans les bonus du film, il y a un interview de lui qui est très intéressant d'ailleurs, je trouve, parce que ce film, il l'a écrit, c'est une véritable réflexion. On se trouve en Sicile, à Catane, où Isabelle Carré s'occupe d'une association du MG pour tous ces pauvres gens déportés qui arrivent comme ça et qu'on met dans des camps spéciaux, voilà, s'ils ont réussi à échapper à la mort et à se faire détrousser par des êtres innobles. Et elle partage, Isabelle Carré, l'affiche avec Théodore Pellerin, qui est un artiste québécois, qu'on a vu dans Juste la fin du monde, qui est un très très bon comédien. Alors, elle se trouve, Isabelle Carré et les gens, avec des gens qui viennent, un d'Allemagne, une femme d'Allemagne, qui va représenter la chancelière, et l'autre, Thomas Villa, qui est vraiment excellent dans le technocrate tête-à-clac, qui vient présenter, parce qu'il va y avoir la venue surprise, et pas du tout organisée, de Macron et de la chancelière. Mais alors, pas du tout
organisé.
Tout ça vient de faits qui ont été observés par le réalisateur. Alors, ils sont dans un camp, puis alors ils regardent, fait « Mais c'est trop propre !» Mais c'est trop bien, c'est pas possible. Et il ouvre une porte et dit, ah ben voilà, ça c'est bien. Il dit, mais on peut pas y aller. C'est une zone parce que c'est une ancienne base militaire américaine. Et cette partie a été complètement clôturée parce qu'il y a de l'amiante, c'est pas. Il dit, non, mais c'est là qu'il faut tourner, c'est beaucoup plus. Alors après, on leur propose des migrants. Et donc, il y en a un qui, je crois, congolais. Il dit, mais vous parlez trop bien français. Il faut que vous parliez un peu. Il dit, vous voulez que je parle petit nègre alors? Dit, je vous signale que moi, j'ai traduit Michel Houellebecq en vrai. Oui, non, mais bon, non, faut nous en trouver un autre, lui, non. Non, mais c'est pas possible. Et le réalisateur raconte qu'il a assisté à une scène où il y avait une femme, je crois, afghane avec un bébé, mais le bébé pleurait, donc on lui a pris son bébé, hop, et puis on en a mis un autre pour que ça soit mieux, pour qu'il soit dans les bras du président. Donc, voilà. Tout ce genre, on est dans le village Potemkin, oui, voilà. Partout, voilà. Mmh. Donc, tout ça est organisé, et Isabelle Carré est un petit peu écœurée, et par hasard, elle retrouve son fils, qui est donc interprété par Théodore Pellerin, qu'elle n'a pas vu depuis nombreuses années, parce qu'elle est partie, parce qu'elle voulait assumer son homosexualité. Voilà. Donc, voilà. Donc, le film, à la fois, mélange cette comédie un peu grinçante, décalée, et sur des faits politiques qui sont pas à l'honneur de nos politiques. Il faut quand même bien le dire. Et, voilà. Et donc, ces femmes qui vont être prises comme ça. Donc, ce film, La dérive des continents, est édité chez Blackout. Voilà. Faut quand Blackout. Même que ça soit dit, chez Blackout. The parce Black. Qu'ils sont très très gentils, chez Blackout. Alors. Moi, on m'a présenté ça comme une comédie très poilante. Moi, j'ai pas trouvé ça aussi poilant que ça. Voilà. Je me permets, ce truc. Mais il y a des choses, Isabelle Carré, c'est une très grande comédienne.
Bien sûr.
Et c'est amusant de la voir avec cette actrice allemande qui fait la personne qui représente Merkel, qui est quelqu'un qui travaille à la Show et Bühne, qui est du théâtre très drastique, j'ai envie de dire. Notre camarade québécois qui est tout à fait remarquable. Et ce film, donc, a eu un très très gros succès. Et surtout, c'est Blackout, donc, qui est une très bonne maison d'édition de DVD. C'est très sérieux ce qu'ils font, donc c'est vraiment intéressant à voir. Donc vous trouverez ce DVD sur toutes les bonnes plateformes, et surtout à la FNAC ou ce genre de choses. Alors, je dois reconnaître que ce film, quand il est passé très vite chez moi. Donc le DVD, c'est ça aussi qui est sympa pour pouvoir faire du rattrapage. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de « Vous n'aurez pas ma haine ». Voilà. Aussi. Bon, d'accord, ça va pas être très rigolo, mais je vous jure, j'essaierai de trouver quelque chose de plus rigolo. Si vous voulez rire, je dois reconnaître que j'étais invitée, donc j'y suis allée. Je suis allée voir Suite Royale. Adrien Aka, c'est une pièce qui se joue actuellement au Théâtre de la Madeleine avec Elise Moon et Julie de Bonnard. Alors, le décor est superbe. On est dans la suite royale d'un grand hôtel parisien qui doit être le Ritz pour pas le nommer, mais enfin c'est un peu ça. Et donc on a Elise Moon qui attend impatiemment sa compagne. Voilà, il a commandé du Pétrus. Il est émerveillé parce qu'il y a des macarons offerts par le directeur. Voilà, donc sa femme arrive et dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait là? On n'a pas les moyens. Lui est un auteur qui n'a pas eu beaucoup de succès dans ses livres, mais qui écrit. C'est elle qui fait bouillir la marmite. Alors, elle va dans la salle de bain. Alors, il y a deux baignoires, deux ceci, mais ça sert à quoi? À rien, mais c'est luxueux. Bon, voilà. Ils sont là, mais dit, tu m'expliques. Et il lui annonce. Voilà, il faut que je t'annonce. Je le sais. Mon agent vient de me le dire. C'est moi qui vais avoir le concours. Oh, mais c'est extraordinaire! Il dit, oui, mais tu comprends, je vais avoir une autre vie. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on divorce. Je vous en dis pas plus, elle le prend très mal.
J'imagine.
Moi, je pense que je lui aurais flanqué une bonne paire de claques. Mais vous allez voir le déroulement. Et je vais reconnaître que tous les deux sont formidables. En plus, on est très bien reçus aux Têtes de la Madeleine. La salle était très sympathique. Parce que le public avec qui vous voyez un spectacle, ça joue beaucoup. La salle était très sympathique, donc voilà. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de ce spectacle.
C'est vrai.
Donc c'était un petit peu ça. On refait une parenthèse sur l'opéra. Est-ce que tu ça va être repris l'année prochaine, Hamlet?
Il parle de dans deux ans. Pas la saison prochaine qu'elle est déjà bouclée. La saison d'après, il pense que le faire. Ouais.
Là, tu as fini les représentations.
Oui, c'est terminé. Oui.
Alors moi, mon coup de foot, c'était Nixon in China.
Oui, c'est très très bon. Ouais, moi aussi, je l'ai vu, bien sûr. Bah, moi, j'adore John Cage, donc je suis déjà, j'ai eu la chance d'aller voir la répétition en plus, avec Dudamel, je veux absolument voir le chef de près, en répétition, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ce chef d'orchestre.
J'ai jamais vu aussi bon, hein, Dudamel.
Ouais, c'est vraiment un bon chef, il a une précision et puis une gentillesse. Il dirige bien l'orchestre, tout les musiciens. Le saxophoniste qui était dans Hamlet joue dans dans Nixon. Donc il me disait que c'était vraiment quelqu'un de très très gentil et très attentif et pas du tout schizophrène ou colérique. Voilà, c'est pour ça que je précise. Et moi, j'ai assisté à la fois à la présentation et à la fois aux répétitions, à quelques répétitions, pas tous, à la correction des chœurs et à la répétition de l'orchestre. Et vraiment, c'est un plaisir de voir ces gens travailler parce que t'apprends beaucoup. Moi, j'apprends encore, quoi, à mon âge. T'apprends encore plein de choses sur la façon de travailler avec les gens, de les diriger. Et puis, cette précision, et puis l'oreille qu'ils ont, quoi. Enfin, c'est, dans l'orchestre, reprendre le deuxième violon qui est plus en avance que le premier, bon, faut quand même l'entendre. Hein. Donc, c'est un bonheur. Et une joie d'être à l'Opéra de Paris, c'est vraiment une joie. Et puis, j'ai eu la chance, Maylor, tiens-toi debout, de prendre l'ascenseur avec René Fleming. Attention, là,
alors là, quand même,
l'orgasme.
C'est...
Bon, je vais pas parler du tout, parce que femme, hein. mais c'est vrai que je suis retrouvé à l'ascenseur avec elle, en train de monter, et puis... nous sommes salués, bien sûr. Elle m'a reconnu tout de suite, bien sûr, évidemment. Ah, vous êtes sous le directeur de l'hôpital, hein? Non, pas du tout, non. Je rigole. Non, mais c'est l'Opéra de Paris permet de faire des rencontres comme ça improbables qu'on ne pourrait pas.
C'est ça qui est merveilleux.
Parce qu'on croise des artistes à l'Opéra de Paris, faut savoir, beaucoup à la cantine, bizarrement. Ils sont pas du tout cloîtrés dans leur loge. Ils vont boire un café. Ils mangent même parfois, quand ils peuvent. Et c'est ça qui est intéressant dans cet établissement, c'est qu'ils sont très décontractés, on peut les voir. Alors, vous savez, dans les petits théâtres, c'est tellement bon, c'est petit, ils ont leur propre endroit, et c'est plus compliqué de les rencontrer. Là, c'est vraiment, comme dans Hamlet, c'est comme une famille, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant, voilà, on était très, très ensemble, et donc, voilà, oui, bien sûr, moi, j'aime beaucoup John Cage, pour venir sur eux.
Alors, tu sais que, lorsqu'on a mis l'ascenseur à la Comédie Française, si tu étais pensionnaire et qu'il y avait un sociétaire, tu ne pouvais pas prendre l'ascenseur.
Alors,
ça a été comme ça jusqu'à un certain moment.
Alors, c'est vrai que ces grandes maisons-là, oui, ont le sens de la hiérarchie. Je n'explique même pas les saluts, comment c'est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, vraiment, de... Pas de salaire, j'oserais pas dire ça, hein, mais en tout cas d'importance, ça c'est vrai et ça ils tiennent beaucoup à ça.
Ouais.
Alors est-ce que c'est parce que c'est des établissements publics Comme, je ne sais pas, parce que ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas au Châtelet, ça n'existe pas peut-être des Champs-Élysées. C'est vraiment que l'opéra de Paris, même dans les autres opéras de province, il me semble pas. Voilà. Il y a une espèce de sens de la hiérarchie qui est assez étonnant. Ah ouais. Mais je ne sais pas pourquoi.
Ah ouais. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un ascenseur sur la péniche du Limpavert?
Non, t'as intérêt à prendre des rames plutôt, parce que mais ça coule, c'est compliqué. Non, il y a une petite passerelle.
Alors, parce que Marc va jouer, on va avoir un raga du soir espoir le samedi
13 mai à 20h précise
à Joinville-le-Pont.
Voilà, hein, les entrées sont vraiment raisonnables, hein, c'est du 10 à 12 euros, enfin, c'est vraiment raisonnable. C'est histoire de faire la fête un peu avec eux. On peut se restaurer sur place, boire un coup. C'est comme un petit cabaret.
Bah, c'est histoire de passer vraiment une soirée formidable, quoi.
Bah, c'est une soirée, ouais, à thème toujours. Ouais. Moi, je suis allé, c'est une soirée clown, pas tellement longtemps, ça n'a rien à voir. Une soirée clown. Il y a eu des soirées espagnoles, des soirées, voilà, il faut des soirées à thème. Comme ça, il y a aussi des jam sessions, il y a aussi des soirées percussions. Et c'est vrai que moi, quand ils m'ont proposé ces soirées indiennes, je trouvais ça sympa. Mais en sachant que moi, je fais pas de musique indienne, c'est de la musique de l'influence indienne évidemment. Mais c'est des lieux de création. Ils veulent pas du tout des lieux de reprise. C'est-à-dire que n'allez pas là-bas pour proposer la reprise de Stevie Wonder ou de Patricia Cass. Hein. Non, c'est vraiment des lieux de création. Ils veulent de la création. Et donc il y a beaucoup aussi d'artistes qui testent leur première scène là-bas pour voir un peu ce qu'ils peuvent rectifier après. Et moi j'ai vu quelques stand-up là-bas. Bon, pas toujours de qualité. Parfois, ben voilà, et on sentait qu'il fallait bien retravailler. Mais en même temps, c'est le plaisir d'exister et de faire. Justement, où là, on fait ses premières armes, un peu comme il y avait les cabarets à l'époque à Paris. Les multiples cabarets, avant d'arriver à Bobino ou avant d'arriver à l'Olympia. Mmh. Ben, ils faisaient le tour des cabarets. Et ça manque pour les artistes qui ont besoin d'exercer leur art. Mmh. Et tu vois, le tour. Et moi, je sais, voilà, quand j'ai préparé Alice, le meilleur du monde, la comédie musicale, j'ai été le tester là-bas, entre autres, hein, j'ai fait beaucoup de concerts ailleurs, mais entre autres là-bas pour rectifier certains titres et des tonalités, des choses.
Et c'est puis, important ce que tu dis, parce que on écrit dans son truc, voilà, et puis après il y a l'épreuve du public, et tu sais pas pourquoi. J'en parlais avec un comédien qui me disait on joue une pièce drôle, et l'autre jour on était devant un public qui ne bougeait pas, et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, et à la fin on a eu un tonnerre d'applaudissements. Mais pour nous, ça a été épouvantable. Parce que on se disait mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ils n'applaudissent pas? Et puis aussi il y a des choses qui sont bien à caler, d'un effet qui marche pas ou ce genre de choses. Et si on passait un autre extrait?
Voilà, alors toujours dans la musique contemporaine, hein, je vais en venir avec ça, mais là, c'est la musique de collage. Alors, Pierre-Henri aimait beaucoup les collages, hein, puisqu'avec ses bandes, il collait les choses. Alors, on lui fait un petit clin d'œil. C'est toujours le groupe Ruka, on avait produit un album qui s'appelle Ceci n'est pas une fanfare. Alors, c'est un clin d'œil à toutes les fanfares du Nord, de la France, les flamandes, du Schnorr. Voilà, le titre s'appelle Ceci n'est pas une fanfare, et j'avais fait une rencontre avec un compositeur contemporain, un Mexicain qui s'appelle Eduardo Palacio, qui est un grand compositeur mexicain de musique contemporaine, qui était au conservatoire à l'époque du département musique contemporaine du conservatoire de Mexico, et on a décidé de faire un album ensemble parce que c'est le roi du collage, lui. et on voulait faire, vous allez entendre donc plein de choses complètement délirantes. Ne cherchez pas de mélodie, ne cherchez pas de la musique romantique.
Non.
Voilà, on est dans la musique brute des pommes. Donc on fait un petit délire. On part sur les routes du carnaval et puis on écoute cette musique un peu fantasque sur la musique contemporaine. Ça s'appelle Ceci n'est pas une fanfare du groupe Ruka.
On écoute.
Un peu de calme, restez calme. Sur les fanfares, bordel. On vous emmerde. peu de calme.
Là voilà, hélas, il n'est pas de bonne compagnie que, hélas, on doit se quitter. Marc, merci beaucoup d'être venu. Rendez-vous à la péniche du Lapin Vert, le
13 mai à 20h, quai de la Marne, Joinville-le-Pont.
Voilà, merci beaucoup. Merci pour ta réalisation lumineuse à Francky. Et nous donnons rendez-vous samedi pour une balade musicale et la semaine prochaine pour une autre émission naturellement. Merci à tous, à bientôt, au revoir.
France. En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM.